Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal sur Radio Kapi. Les deux chambres du Parlement ouvrent ce lundi la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire. Plusieurs personnalités, tant nationales qu'internationales, dont les présidents de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, participent à la cérémonie d'ouverture. Dans ce journal, l'ambiance qui règne à l'Assemblée nationale. Arrivé hier dimanche à Kinshasa du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix va échanger avec toutes les couches sociales du pays sur les processus de la paix. Notre invité, c'est Kataloro Katumara, chef de secteur des Bahema Sud en Ituri. Dans ce journal, il revient sur la situation sécuritaire dans son entité et l'apport de la MONUSCO dans la sécurisation des civils. Bonjour à tous. Fini les vacances parlementaires, les deux chambres du Parlement ouvrent ce lundi la session ordinaire de septembre, une session essentiellement budgétaire. Au cours de ces trois prochains mois, l'Assemblée nationale et le Sénat évalueront l'exécution du budget 2023 à travers la loi portant reddition des comptes avant de doter à la République un budget pour l'exercice 2025. Cette session s'ouvre à l'Assemblée nationale en présence de plusieurs personnalités, tant nationales qu'internationales, dont le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire qui en est l'invité. Dans quelle ambiance se déroule cette cérémonie d'ouverture, Michel Kifindangoy?
C'est dans un climat d'inquiétude que s'ouvre ce lundi la session de septembre en présence des personnalités tant nationales qu'internationales. À l'occasion, l'invité d'honneur de l'Assemblée nationale, le président du Parlement ivoirien, se dit heureux de venir partager aux députés congolais l'expérience de la Côte d'Ivoire. Adama Bictogo.
Nous savons que notre continent traverse beaucoup de difficultés, en particulier le pays frère, la République démocratique du Congo. Et il est bon que cette relation soit basée sur les principes d'échange d'expérience.
À son tour, le président de l'Assemblée nationale de la RDC sera l'invité d'honneur en octobre prochain en Côte d'Ivoire pour partager l'expérience congolaise. Vital Kamere.
Nous avons consolidé notre conviction profonde d'une Afrique qui va s'élever et marcher à travers la diplomatie parlementaire, parce que l'objectif, c'est que l'Afrique puisse se réconcilier avec elle-même.
Prennent aussi part à cette cérémonie d'ouverture la première ministre Judith Suminwa, qui déposera ce lundi même le projet du budget 2025, les membres de son gouvernement, les autorités de plusieurs institutions ainsi que les membres du corps diplomatique.
Merci Michel. À cette rentrée de la session de septembre au Palais du Peuple, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a invité ce lundi les parlementaires à consacrer les budgets de plus de 3 milliards de dollars pour le secteur de l'éducation. Les porte-parole de cette structure, Jean Bosco Puna, l'a dit dans un entretien accordé à Radio Kapi. Il a regretté que les enseignants soient les moins payés de la République. Jean Bosco Puna a fait savoir que ces mauvaises conditions salariales ne permettent pas aux professionnels de la CRE de nouer les deux bouts du moins. Suivez ses propos au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
L'éducation est un secteur prioritaire. Le Parlement congolais a le devoir moral de consacrer 3,6 milliards de dollars à l'éducation pour que les enseignants reprennent le chemin de l'école. Vous allez comprendre que le salaire qui sera payé à l'enseignant de Kinshasa après ajout, donc au mois de septembre, c'est seulement 155 dollars et sans avantage. Et pour l'enseignant qui est dans l'arrière-pays, c'est 101 dollars pour cet enseignant-là. Mais il faut défalquer de cette enveloppe les frais de tenue de compte bancaire. Dans ces conditions-là, comment l'enseignant va-t-il payer les transports pour se rendre au service? Comment va-t-il payer le loyer? Comment va-t-il assurer le soin de santé de sa famille? Comment va-t-il nourrir ses enfants? Même si nous sommes patriotes, il nous sera difficile de faire un bon travail. Nous attendons de la représentation nationale un sursaut patriotique pour sauver l'enseignement.
Notez que le week-end dernier, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a décidé de poursuivre les mouvements de grève dans les écoles publiques. Nous le disions au sommaire, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, séjourne depuis hier soir à Kinshasa pour une visite officielle. Le but de sa mission est d'échanger avec les autorités du pays, les acteurs politiques et différentes organisations de la société civile sur les processus de paix en RDC. Jean-Pierre Lacroix met l'accent sur les processus de Luanda, lesquels, selon lui, doivent aboutir à une paix durable en RDC. Pour cet auteur, personnalité de l'ONU, l'implication de la MONUSCO dans l'accord de Luanda est un travail complémentaire au processus de désengagement de la mission onusienne en RDC. Jean-Pierre Lacroix l'a dit au micro d'Askin Zig Biatayoro à sa descente d'avion à l'aéroport d'Ndjili.
Je voudrais bien sûr d'abord écouter mes interlocuteurs congolais, aussi plus en détail, bien sûr, mes collègues de la MONUSCO. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, des efforts diplomatiques, notamment avec le processus de Luanda. Il y a eu déjà des résultats issus de ce processus de dialogue. Maintenant, il faut voir comment faire en sorte que ces premiers résultats, notamment l'accord qui avait été signé le 30 juillet, puissent vraiment donner tout leur potentiel, déboucher sur davantage de stabilité et des progrès vers une paix durable.
D'un côté, la MONUSCO est appelée à s'impliquer dans le processus de Luanda. Et de l'autre côté, la MONUSCO doit préparer son retrait progressif et durable, comme on a toujours dit. Comment les Nations Unies comptent s'y prendre?
Je pense que ça n'est pas incompatible, c'est même en réalité complémentaire, puisqu'il nous importe de faire le maximum, y compris avec les moyens de la MONUSCO, pour soutenir le processus de paix, les efforts de paix, et en même temps examiner la manière dont nous pourrions continuer à conduire ce désengagement. Si nous avons des progrès dans les efforts de paix, bien entendu, ce sera un élément important à prendre en compte dans ce processus.
En Ituri, le chef de la chefferie des Mambisa, Henri Juga Krilo, a été inhumé samedi dernier à Nizi, dans le territoire de Djougou. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques autorités coutumières, politiques et membres de la société civile. Rappelons qu'Henri Juga Krilo avait été tué le 1er septembre lors d'une attaque armée à Nizi, qui a également fait 8 autres victimes, dont 5 militaires de FRDC. Une enquête a été ouverte par l'auditorat supérieur militaire de l'Ituri. Restons dans l'Ituri. À Bounia, les camps de déplacés des Kigonze abritent plus de 14 000 personnes ayant fui les violences en Ituri. Depuis 6 mois, ces déplacés font face à des graves difficultés d'accès à l'eau potable. Sur les 7 forages installés par l'OIM, l'UNICEF et Turn Found, seuls 4 fonctionnent encore. De plus, la moitié des latrines non vidées depuis plusieurs mois sont déjà saturées, aggravant les conditions de vie. Martial Papimoukeba a visité ces camps. Voici ces reportages.
Sous un soleil ardent, les camps de Kigonze, avec ses abris de fortune, s'étend à perte de vie. Pour ses occupants, l'accès à l'eau potable devient un véritable défi, comme l'explique Bahati Londo, secrétaire du camp.
Il y a un manque d'eau, c'était 7 forages, mais maintenant les 3 sont à panne, alors les déplacés ne bénéficient pas totalement d'eau comme d'avant.
Cette situation force certains déplacés à aller chercher de l'eau en dehors du camp, une réalité difficile selon cette femme déplacée.
Nous partons puiser de l'eau en
dehors du camp. Un bidon coûte 100 francs congolais.
La situation des latrines est tout aussi préoccupante, précise Bahati Londo.
Beaucoup de latrines sont déjà remplies. Les gens cherchent à les vider et même avec la main, ils sont vraiment dans l'urgence.
Malgré ces conditions difficiles, ces familles déplacées continuent d'espérer un avenir meilleur, loin de l'insécurité où elles pourront construire leur vie. Bounia, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Depuis la semaine dernière, Radio Okapi vous propose une série de reportages de proximité à Bounia. Les prochains portera sur la résilience des femmes déplacées dans la ville de Bounia. Rendons-nous à Beni, au Nord Kivu. Après 2 semaines de grève, finalement les cours ont repris ce lundi dans plusieurs écoles publiques de la sous-division de Beni. Sur 8 écoles visitées ce matin par notre reporter sur place, seule une école n'avait toujours pas repris les cours. Guylaine Kassassia nous en dit plus sur ces compromis trouvés hier dimanche lors d'une assemblée générale extraordinaire de l'intersyndicale tenue à Beni.
Ici, nous sommes à l'EPA de Beni. C'est la fin de la récréation. Les cours viennent de reprendre dans cette école publique après 2 semaines de grève. Pour cette première journée de la rentrée, ambiance.
Nous avons conjugué ce verbe-là à combien de formes?
Des formes.
Les élèves se disent soulagés pour la reprise au regard du retard enregistré à cause des 2 semaines de grève. Sourire aux lèvres, Nixon Kasereka Kawa, de la 6e année primaire, partage sa joie.
Mon cœur est plein de joie parce que on vient de commencer l'année scolaire. Pendant la grève, on était fatigué. Aujourd'hui, avec le début des cours, je suis content avec les amis. Chez nous, on a déjà commencé à étudier. On a fait un exercice et un devoir. On a le français conjugaison. Mes amis, je leur demande d'être appliqués que l'année scolaire prochaine, nous soyons au secondaire.
À l'EPA de Kilewe, par contre, la cour de l'école reste déserte. Les enfants qui sont arrivés le matin n'ont pas rencontré les enseignants. Dans d'autres écoles primaires visitées, certains enseignants complétaient encore leur cahier de préparation des cours. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les enseignements ont effectivement repris dans bien d'écoles, tant primaires que secondaires de la ville de Kisangani. Ces établissements en grève depuis la rentrée scolaire le 2 septembre dernier sont revenus au bon sentiment au terme des négociations des bibois avec les banques gouvernementales. Les mots d'ordre de la reprise des cours a été donné le week-end après la restitution organisée par les délégués syndicaux au lendemain de leur retour de Kinshasa. Un reportage de Jacques Mukonkole.
Dans certaines écoles considérées comme noyau dur en matière de grève, la rentrée est effective, comme témoigne l'élève Plamedi Kankolongo de la première année littéraire au collège Maélé.
On étudie maintenant normalement. Aujourd'hui, on a suivi la physique, la mathématique, civisme, c'est tout.
Ce témoignage est confirmé par un professeur du même établissement, Joey Litete, qui justifie la fin de la grève des enseignants.
Le gouvernement a déjà libéré la paye complémentaire de 50 000. C'est dans certaines banques, on a déjà payé, les enseignants ont déjà touché. Alors il n'y a pas de raison de poursuivre une grève.
La réalité est la même dans bien d'autres établissements, comme l'affirme un professeur du réseau des écoles conventionnées protestantes, Gabriel Apama.
Tous les enseignants sont en train de donner cours. Et c'est comme ça que vous me trouvez également ici, dans notre école, je donne cours. Alors que les jours passés, nous ne venions pas au cours.
Cependant, dans d'autres établissements comme à l'école primaire à Noadité, les enseignants sont encore réticents, comme déclare celui-ci.
Ce qui est étonnant est que la banque à laquelle nous touchons notre salaire n'a pas encore liquidé. Alors c'est pourquoi nous sommes au lieu du travail, mais on ne preste pas.
Quoi qu'il en soit, les syndicalistes demandent au gouvernement de respecter les engagements encore en souffrance. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, l'université officielle de Mbujimayi, UOM, s'est dotée des équipements du studio photo audiovisuel pour la faculté des sciences de l'information et de la communication. L'abbé recteur de cette institution universitaire a présenté ce lundi à la presse ses équipements de haute facture. L'université officielle de Mbujimayi s'est également dotée d'un laboratoire moderne pour le département de géologie. Le professeur abbé recteur Chibaka Chikongo s'exprime à cet effet au micro de Esther Dalafina.
Notre faculté d'informatique a acquis en janvier 2022 110 ordinateurs portables. Aujourd'hui, notre comité de gestion est heureux de lui remettre une quarantaine de nouveaux ordinateurs qui sont là au coin. Aujourd'hui, le département des sciences de l'information et de la communication de notre faculté des sciences sociales, politiques et administratives reçoit un grand studio photo audiovisuel. Nous avons là tous les appareils qui ont été commandés. Tandis que le département de géologie de notre faculté des sciences reçoit un laboratoire que les spécialistes estiment être l'un des meilleurs du pays. Avec l'appui de partenaires du Congo et d'ailleurs, nous avons aussi acheté un laboratoire de pharmacie dont l'arrivée à Mbujimayi aura lieu d'ici novembre 2024. Ces acquisitions sont ridicules par rapport aux besoins de notre université, mais elles sont grandes par rapport à notre passé récent.
Toute autre nouvelle, le ministre de l'Urbanisme et Habitat relance les projets d'urgence et de résilience urbaine des Kananga Puruk. Ces programmes du gouvernement financés par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars pour la lutte anti-érosive avaient été suspendus pour mauvaise gestion de l'équipe de coordination. Aux côtés d'une équipe de la Banque mondiale, Crispin Mbadou a assuré que le gouvernement congolais tient à l'accélération des travaux pour stopper différentes têtes d'érosion qui menacent la ville de Kananga. François Kadima.
La ville de Kananga est menacée par plus de 300 têtes d'érosion qui risquent de la faire disparaître. La Banque mondiale a décidé de débloquer 100 millions de dollars américains pour financer PURUC, un programme du gouvernement congolais pour lutter contre ces différentes têtes d'érosion sous la supervision du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Lancé à Kananga en juin 2023 par le chef de l'État, les travaux ont été suspendus une année après et l'équipe de coordination écartée suite à la mauvaise gestion. Le week-end à Kananga, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, venu avec une équipe de la Banque mondiale, a échangé avec les forces vives avant une visite de terrain pour inspecter les sites érosifs, annonçant la reprise de travaux avec une équipe intérimaire placé à la tête du projet. Crispin Mbadou a exprimé les soucis de voir les travaux s'accélérer en urgence pour stopper les différentes têtes d'érosion. Par la même occasion, Catalina Marulanda, chef de la délégation de la Banque mondiale, a souligné que son institution s'investit dans ce projet pour l'éradication des érosions à Kananga. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Donald Trump est sain et sauf, a rassuré la Maison-Blanche dimanche après une deuxième tentative d'assassinat contre les candidats républicains à la présidentielle. Des coups de feu ont été tirés à 300 mètres de l'endroit où Trump jouait au golf à West Palm Beach en Floride. Les suspects appréhendés avaient une AK-47, une caméra GoPro et deux sacs à dos. Selon plusieurs médias, il s'agirait de Ryan Wesley Root, un homme de 58 ans et démocrate qui avait dans un récent post sur X tagué Joe Biden et Kamala Harris, les appelant à assister aux funérailles du pompier tué lors de la première tentative d'assassinat de Donald Trump, car selon lui, ces derniers ne feraient rien.
L'invité.
Notre invité, c'est Kataloho Takumara, le chef des secteurs des Bahama Sud. Avec lui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans cette entité, caractérisée par des incursions des éléments de la milice FRPI. Dans une interview exclusive mercredi à Radio Kapi, cette autorité coutumière évoque également l'apport de la MONUSCO dans la sécurisation des civils dans son entité. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Katalo Takumara, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est l'état de lieu de la situation sécuritaire dans votre entité?
Nous observons une accalmie sur l'ensemble du secteur de Bahama Sud. Qu'à cela ne tienne, il y a aussi la présence de groupes armés, signataires d'actes d'engagement de Aru, Bounia par-ci, par-là, tels que nous avons la FRPI qui est dans notre groupement de Bandiango et Bandicato, partout là nous les retrouvons. Et aussi les Codeco qui sont dans le village Mbechi et Kikoga. Voilà un peu, mais à part ça, la situation sécuritaire, je dirais, elle est calme sur l'ensemble du secteur de Bahama Sud. Bien que nous avons soulevé ces aspects-là, et une demande aussi qu'on peut adresser aux autorités et de déployer les militaires loyalistes dans ces zones afin que la population puisse bénéficier d'une sécurité vraiment apaisée telle que le souhait de son Excellence M. le gouverneur militaire de la province de Rutshuru.
Vous avez parlé de la présence des éléments de la FRPI dans des groupements. Qu'est-ce que ces éléments font dans ces entités coutumières?
Donc les éléments de la FRPI tels qu'ils se justifient depuis donc la situation que connaît notre pays, l'agression par le Rwanda. Donc les brigades qui étaient déployées sur l'ensemble du secteur de Bahama Sud, donc à partir de Nyamavi, Kapuru, même d'aller donc à Kalyabugongo, Kanzoka, Bugumba par-ci par-là, et puis ces militaires les avaient dégarnis. C'est de cette occasion que les miliciens ont profité de récupérer toutes ces positions et pour dire maintenant comme ils sont donc dans le processus avec le gouvernement, ils doivent garder la population. C'était ça leur hypothèse qu'ils avaient soulevée.
Est-ce que cette présence de miliciens dans ces entités est une inquiétude pour vous?
C'est une inquiétude, bien sûr, puisque vous savez, quand vous n'êtes pas sécurisé par l'armée loyaliste tel que le mot le dit très bien, c'est un milicien. Il n'a pas le même comportement, le même déontologie que l'armée loyaliste. C'est pour cela que c'est une inquiétude pour la population. Voilà la raison pour laquelle nous adressons donc cette demande de déployer les troupes loyalistes dans la zone.
Alors, Katalao Takumara, la présence de casques bleus de la MONUSCO dans votre entité, est-ce que ça garantit la sécurité de la population?
Donc, le cas des casques bleus, nous, ça ne nous dérange pas, puisque vous savez, et donc, ils sont le partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Même si, quand il y a un effet donc, qui cause l'insécurité, aussitôt, nous voyons directement la MONUSCO de Bogor descendre à Kasenyi, même voir donc même aussi à Tchomia. Donc ils sont vraiment flexibles pour nous assister à cas dès ça ne va pas sécuritaire dans la zone. Donc pour nous, nous l'apprécions puisque la MONUSCO telle qu'elle est dans sa mission aussi protéger la population de donc congolaise, en particulier celle de Tchomia ou de Baïma Sidi là où elle est déployée. Et là vraiment nous ne voyons pas un obstacle pour que la MONUSCO ne puisse pas déployer et puis joindre sa force avec l'armée loyaliste.
Si nous revenons dans les passés, quel était l'impact de la situation sécuritaire de la vie socio-économique de la population à Kasenyi?
Bon, la situation sécuritaire que nous avons connue récemment, je dirais donc impact, l'impact sur le plan social, nous avions connu donc l'augmentation de la population qui est ici à Kasenyi, puisqu'il est de cette population qui avait pris fuite ici à Kasenyi. Après ça, nous avons constaté qu'il y a l'infiltration de jeunes voleurs. C'est ça l'aspect que nous avons constaté dans la zone. Et maintenant, nous avons mis toutes nos batteries en marche pour mettre ces voleurs hors d'état de nuire, en fait que notre population puisse toujours bénéficier de cette sécurité qu'elle a toujours attendue de notre part. Sur le plan économique, vous savez, donc, le secteur de Baïma Sud, son économie est définie sur, trois aspects, donc, dans le secteur agricole, donc, secteur pêche, et puis l'élevage. L'agriculture et l'élevage n'est pas appliquée par un nombre élevé de populations, mais ici, toute la population focalise sa vie sur la pêche, donc les lacs.
Katalo Takumara, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Par ici, nous bouclons cette session d'information. Alain Goy, la mise en onde, Martin Sebudjangwe et Élisée Chikota Chivueta l'ont respectivement supervisé et coordonné. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. À vous tous, merci de l'avoir suivi.